L'Italie n'est qu'une expression géographique, déclaration du prince Metternich, ministre autrichien des Affaires étrangères, au congrès de Vienne en 1815.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Après la chute de l'Empire napoléonien, les vainqueurs de Napoléon se réunissent à Vienne pour reconstituer un ordre européen. Et bien sûr, l'Italie fait partie des débats. Les décisions du Congrès rétablissent les dynasties déchues, mais sans revenir totalement à la géopolitique d'avant la Révolution française. Le royaume de Piémont-Sardaigne, sur lequel règne Victor Emmanuel Ier, récupère Nice, la Savoie, et s'agrandit de l'ancienne République de Genève. La Lombardie et la Vénétie sont rattachées à la couronne des Habsbourg d'Autriche. La Sérénissime République de Venise n'est donc pas rétablie. Le duché de Parme et de Piacenza est confié à Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche et seconde épouse de Napoléon. Le duché de Modène a pour souverain François IV de Habsbourg, auquel est adjoint la petite principauté de Massa-Carrara en 1829. Ferdinand III de Habsbourg-Lorraine retrouve le trône du Grand-Duché de Toscane. Le duché de Luc est confié à l'infante Marie-Louise de Bourbon, sœur du roi d'Espagne. Les états de l'Église sont également reconstitués, avec le Latium, les légations de Bologne, de Ferrare, de Ravenne, l'Ombrie, les Marches et les principautés de Bénévent et de Pontecorvo. La petite république de San Marin est maintenue. Enfin, le royaume de Naples, devenu royaume des deux Siciles en 1816, est le plus étendu et peuplé des États italiens, avec Ferdinand Ier de Bourbon comme souverain. Il est indéniable que la période de la Restauration est illustrée par une réaction politique. Dans toute l'Italie, la crainte de la diffusion des idées de la Révolution française stimule le zèle de la censure et de la police, qui surveille les milieux intellectuels et étudiants. En Piémont-Sardaigne, les droits féodaux sont rétablis, ainsi que les privilèges nobiliaires. Des cadres de l'administration qui ont fidèlement servi l'Empire français sont épurés. Dans le duché de Modène, par exemple, François IV prive de leur poste tous ceux qui avaient également travaillé pour l'administration napoléonienne. Dans les États pontificaux, la législation napoléonienne est abolie en mai 1816. Par la suite, le pape Pie VII et son secrétaire d'État, le cardinal Consalvi, favorisent une politique d'amalgame entre les fidèles des réformes et les fidèles de la conservation politique. Par contre, ses successeurs, Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI, adoptent une politique clairement réactionnaire. Vous l'avez compris, au travers de ces quelques exemples, le Congrès de Vienne rétablit un ordre et cet ordre est assuré par l'Autriche, qui devient, si vous me passez l'expression, le gendarme de la péninsule. Sur le plan économique, cette Italie des années 1815-1840 est à la fois marquée par une économie traditionnelle et les débuts d'une révolution industrielle. Le domaine textile fait toujours la réputation de la péninsule, mais celle-ci reste en grande partie fournie par le travail des ruraux. La filature de la soie, de la laine, du lin et du chanvre se fait généralement à domicile, chez les paysans, pendant la morte saison agricole, avec des moyens de tissage traditionnels, ne connaissant qu'un faible développement technique et avec une forte participation des femmes et des enfants. Le royaume de Piémont produit 600 tonnes de soie vers 1840, le nombre d'ouvriers atteignant 43 000 personnes, qui travaillent dans 144 filatures, preuve d'une concentration de la production et du développement des manufactures au détriment des petits ateliers. Le coton est aussi un secteur important. Au début des années 1840, le Piémont est là encore en pointe et en développement à la suite de l'importation du mouton mérinos espagnol. À Biella est installée en 1817 la première filature mécanique. La famille Stella y développe une industrie cotonnière de pointe que l'on trouve également à Novare et à Intra, sur les rives du lac Majeur. L'industrie lainière se développe dans le royaume de Lombardie-Vénétie. En 1818, la manufacture Rossi investit dans des machines à cylindres afin de carder et filer la laine. employant 300 ouvriers dans l'usine de Schio. En 1836, l'entrepreneur Pietro Marzabotto inaugure une nouvelle entreprise de filage de laine à Valdegno, près de Vicence. Les métiers jacquard et les machines britanniques Mule Jenny y sont introduites. Sur le plan industriel, les progrès émergent. En 1841, l'historien et philosophe Carlo Cattaneo exalte le chemin de fer comme un moyen puissant de prospérité publique et privée. D'ailleurs, le comte Camillo Benso, comte de Cavour, qui a parcouru la France, la Belgique, l'Angleterre, en a retiré la conviction qu'il faut moderniser le royaume de la dynastie de Savoie, mais n'élude pas cependant les atouts dont dispose l'Italie non encore unifiée. Il publie d'ailleurs, en 1846, un article important « Des chemins de fer en Italie », où il développe l'idée que par l'économie, nous aborderons une phase de prospérité et d'unité de l'Italie. En fait, l'unité italienne, à ses yeux, passera peut-être d'abord par une unité économique. Parce que, effectivement, dans le cadre de cette Italie, l'idée d'une unité commence à se développer. Dans un article intitulé « L'Italie, l'Autriche et le Pape », publié le 10 septembre 1845 dans l'organe de presse belge « La Revue indépendante », Giuseppe Mazzini se plaint amèrement de la situation italienne. « Nous n'avons pas de drapeau, pas de nom politique, pas de rang parmi les nations européennes. Nous n'avons pas de centre commun, pas de pacte commun, pas de marché commun. Nous sommes démembrés en 8 États. » Un de ces États, comprenant à peu près le quart de la péninsule, appartiennent à l'Autriche. Les autres, quelques-uns par des liens de famille, tous par le sentiment de leur faiblesse, en subissent aveuglément l'influence. C'est bien contre cette situation que voit le jour la pensée du Risorgimento, c'est-à-dire de la Renaissance, du renouveau, dont le but ultime est l'unité de la nation italienne. L'expression apparaît dans les années 1820-1830. Son étymologie vient du verbe risorgere, qui signifie renaître, ressurgir. Le mot risorgimento, que l'on conserve d'ailleurs dans les diverses langues, sans que l'on traduise le terme, illustre donc le phénomène de prise de conscience de l'existence d'une nation italienne, qui ne peut continuer à subir l'influence étrangère, la division politique, l'éclatement territorial. La prise de conscience s'est sans doute développé sous l'effet de l'illuminismo et de la période française, au cours de laquelle se sont propagés les idéaux de la Révolution, en particulier l'idée de la nation. D'autre part, le romantisme, au travers de la littérature, de la peinture, de la musique, participe à l'attention d'une part des élites italiennes à la nécessité d'entreprendre un processus d'unité nationale. Ainsi, le roman d'Alessandro Manzoni, « Les fiancés », publié en 1825. Si la trame du roman se déroule dans la Lombardie espagnole de 1628-1630, Le lecteur du XIXe siècle peut y trouver des similitudes avec la Lombardie autrichienne de son époque. Mais les voies pour parvenir à l'unité sont diverses. Il y a d'abord le républicanisme de Giuseppe Mazzini, mais finalement, l'homme politique génois n'entraîne pas véritablement les foules, et les élites sont méfiantes vis-à-vis de cette idée de république. Ensuite, il y a la pensée du catholique Vincenzo Gioberti. Cet intellectuel publie en 1843 « Del primato morale civile degli italiani » où il défend l'idée que le pape pourrait être à la tête d'une fédération italienne. Le problème, c'est que bien sûr l'Autriche n'en accepte pas le principe et que le pape de l'époque, Grégoire XVI, ne laisse aucun espoir, étant extrêmement défavorable à cette idée. D'autre part, il y a donc Cavour. Cavour, lui, estime qu'il faut passer par l'économie et que l'on peut donc essayer, par la suite, de faire une unité de l'Italie autour de la couronne des Savoies. Au début de janvier 1848, la princesse Pauline de Metternich, petite-fille du chancelier autrichien, note dans son journal « Cette année ne commence pas d'une manière bien rassurante. Elle ne croit pas si bien dire, car dans quelques semaines, l'Italie va connaître des soulèvements nationaux. »